au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes mardi, c'est le 18 novembre. Crise au Parti libéral du Québec. Marois Risky qui est suspendu du caucus. On aura l'occasion d'en parler avec Jacques Plante. Également à l'émission, Suzy Lampron et les directrices générales du Carrefour familial des Moulins. On va parler de déménagement. Il sera aussi question d'une grande mobilisation du milieu communautaire et syndical contre le gouvernement Legault avec Catherine Cartier-Pouliot et Nicolas Leduc-Lafontaine. On va parler aussi avec le ministre Simon Jolin-Barrette de la Justice. Il sera question d'un tribunal spécialisé en violences sexuelles et conjugales. Mais tout d'abord, le gouvernement Carney a quand même eu chaud, il faut le dire, son premier budget qui prévoit un déficit de 78 milliards de dollars a été accepté par seulement deux voix de majorité hier soir. Et François Morin en a parlé avec notre analyste politique Mathieu Bélanger qui, à première vue, n'est pas surpris. Par définition, le gouvernement demeure quand même fragile.
Fragile, oui, mais on a eu le premier vrai test, là, savoir s'il allait survivre ou pas. Oui, un vote de confiance ou de non-confiance pourrait revenir plus ou moins à n'importe quel moment, mais on ne s'attend pas, sous réserve à ce qu'il se passe quelque chose d'imprévu, mais on ne s'attend pas à ce que ça arrive bientôt. Ça donne quand même, oui, un sursis au gouvernement pendant encore plusieurs semaines, d'autant plus que là, c'est le temps des fêtes qui arrive. Bientôt, le Parlement va arrêter de siéger. À ce moment-là, il ne peut pas avoir un vote de non-confiance, le Parlement ne siégeant pas. Donc, on reporte tout ça au moins au printemps prochain. Et là, il faudra voir à quel moment que les partis d'opposition voudront renverser le gouvernement. Est-ce que dès le printemps prochain, ils auront motif à cela? Ben, sinon, pas eu maintenant. On peut s'imaginer, si la tendance se maintient, que ça sera pas au printemps prochain non plus. D'autant plus que il y a deux éléments importants qui s'en viennent dans cette dynamique-là. Un, le vote au sein des troupes conservatrices, au sein du Congrès conservateur, à savoir le vote de confiance envers Pierre Poilievre. Donc, un premier test important pour lui. Il risque, lui, de ne pas vouloir aller en élection avant ce vote-là. Du côté du nouveau Parti démocratique, mais là aussi, on est en démarrage de course à la chefferie pour remplacer Jack Metzing, qui n'est plus chef là depuis le résultat des élections précédentes. Et on ne se sent pas encore très fort au sein du NPD pour aller en campagne électorale, alors qu'on n'a pas encore choisi notre vrai prochain chef permanent. Donc tout ça donne un peu de latitude aux libéraux. On a vu quand même que ça a été serré. Comme on n'a pas une entente au sein des libéraux avec une autre formation politique, par exemple le NPD, c'est toujours dû à la pièce et donc à chaque fois, il faut se poser des questions. Puis on a vu hier quand même, oui, les libéraux ont réussi leur pari, mais seul était serré. Une erreur de parcours, comme je le mentionnais tantôt, aurait pu arriver et on aurait pu arriver, malgré la volonté des gens présents, à un autre résultat. C'est pas garanti encore combien de temps ce gouvernement-là va survivre, mais encore pour quelques semaines, ça c'est à peu près certain maintenant, au moins jusqu'au très printemps prochain, probablement même plus tard que ça, parce qu'après c'est le Bloc qui va être moins volontaire après la campagne électorale, puisque l'échéance électorale provinciale va arriver, donc ça va peut-être donner encore un peu de souffle au gouvernement de Mark Carney.
On s'entend pour dire que personne ne voulait aller en élection. Par contre, si le gouvernement avait été défait sur son budget, les conservateurs ne sont effectivement pas en selle. Il y a une dissension là, au sein du parti. Ça aurait pu avantager Mark Carney.
Oui, puis les sondages actuellement le démontrent aussi. Si l'écart entre les libéraux et les conservateurs s'est beaucoup rétréci, mais ça demeure une avance pour les libéraux. Et avec la concentration du vote conservateur dans les provinces de l'Ouest, particulièrement en Alberta, en Saskatchewan, ben c'est beaucoup de votes, entre guillemets, perdus pour les conservateurs, puisque qu'on gagne plus de votes, 10 points de pourcentage de plus pour les conservateurs en Alberta, ça fait augmenter le taux d'appui général de vote envers les conservateurs, mais ça donne pas de députés de plus, ils ont déjà pratiquement tout en Alberta ou en Saskatchewan. Donc, c'est des élections demain matin, on aurait probablement encore un résultat assez similaire à ce qu'on a connu là, c'est-à-dire un gouvernement libéral minoritaire. Ben, en ce sens-là, c'est moins intéressant pour les partis d'opposition d'aller en élection. Il y a peu de chances d'améliorer son score. Et pour Pierre Poilievre, il y a un risque d'autant plus grand. Si on va en campagne électorale et qu'il perd encore, qu'il ne devient pas le premier ministre, ben c'est à peu près certain que son parti, qui a déjà beaucoup de dissensions, beaucoup de critiques à son égard, que là, ça serait très difficile pour lui, Pierre Poilievre, de demeurer chef. Donc, sa carrière politique, du moins comme chef, risquerait fort de prendre fin en cas de défaite électorale. Ça aussi, ça le pousse à être moins moins volontaire pour avoir une campagne électorale, contrairement à ce qu'il a été là, à la fin du règne de Justin Trudeau, où il martelait tout le temps qu'il voulait une campagne électorale. On entend beaucoup moins dire ça ces temps-ci, parce que effectivement, sa situation est beaucoup plus fragile, beaucoup plus précaire dans ce contexte-là de ne pas avoir une deuxième défaite, et que beaucoup de gens maintenant au sein de son parti qui commencent à le critiquer de façon tamisée un petit peu, derrière des portes closes, mais on entend quand même des témoignages ici et là dans les médias, souvent sous le couvert de l'anonymat de députés qui critiquent. Pierre Poilievre, il doit sentir ça aussi. Donc, pour l'instant, il faut garder de son côté les troupes unies. Et il faut attendre la prochaine campagne électorale, là, repousser un peu cet échéancier-là pour garder cette unité.
Dans le contexte mondial actuel, Mathieu Bélanger, la stabilité politique d'un pays, ça devient fort important. Si le Canada avait été plongé en élection, est-ce qu'il y aurait pu y avoir des conséquences?
Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études en sciences politiques qui ont démontré que d'avoir des élections en tant que telles, c'est pas ça qui change tant de choses que ça, de ton point de vue de stabilité, des relations avec les autres, dans la mesure où les partis qui alternent, le processus d'alternance se fait sainement, ce qui est toujours le cas chez nous au Canada. Et d'autre part, lorsqu'on parle pas d'un extrême à l'autre, d'une extrême gauche à une extrême droite, par exemple, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On s'entend qu'il y a des différences importantes entre le Parti libéral et le Parti conservateur sur plusieurs enjeux, mais qu'on n'est pas d'une extrémité à l'autre du spectre politique, pas du tout, sur beaucoup, 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 beaucoup d'éléments. Les deux partis s'entendent quand même sur la grande vision de comment gérer le pays. Et dans ce sens-là, du point de vue des relations internationales, que ça soit les libéraux, que ça soit les conservateurs ou le NPD qui forme le gouvernement, il n'y a pas des attentes des acteurs internationaux, des inquiétudes de dire, où est-ce qu'on s'en va avec le Canada? On n'est pas là du tout. Bien sûr qu'il y a des variations importantes, significatives, mais qui sont pas majeures d'un point de vue le plus macro possible pour du point de vue des autres pays. Là où est-ce que la stabilité internationale joue, par contre, c'est évidemment dans notre relation avec les États-Unis en particulier, où là, on a vu de passer juste de Justin Trudeau à McCarney comme premier ministre, même si c'est le même parti politique, mais ça a changé un peu la dynamique qu'on avait avec Donald Trump. Donc ça change quelque chose, et on est encore dans cette incertitude-là avec notre relation avec les États-Unis. Qu'est-ce que Donald Trump va faire demain et qu'est-ce qu'il va faire après-demain et la journée après, puisque ça risque des réponses différentes. Ça joue sur comment les électeurs peuvent vouloir réfléchir en termes électoraux vers quel parti politique donner leur appui. Un des enjeux demeure encore, quoique c'est beaucoup moins vrai qu'au printemps présentement, mais un des principaux enjeux demeure à quel point, qui que je pense, entre Pierre Poilievre, Mark Carney, qui est la meilleure personne pour gérer la relation avec les États-Unis, mais pour l'instant, sur cet enjeu-là, comme sur beaucoup d'enjeux, si on suit au sondage, l'avantage demeure à Mark Carney. Bref, il y a de l'instabilité, c'est vrai au niveau international, mais pour beaucoup d'électeurs, leurs préoccupations sont beaucoup plus local, la relation avec les États-Unis, les enjeux locaux, du coût de la vie, et ainsi de suite. Et tout ça, donne un avantage pas majeur, mais significatif aux libéraux de Mark Carney.
Bon, on a eu quand même un peu chaud hier du côté d'Ottawa, mais bon, personne ne voulait vraiment repartir en campagne électorale, là, ça va de soi. Alors, c'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger. Dans un moment, il serait question d'un tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale avec le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette.
Si vous avez des idées suicidaires ou que vous connaissez quelqu'un qui pense au suicide et que vous voulez savoir comment en parler, obtenez de l'aide en visitant suicide.ca. Parler, c'est le premier pas pour aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer!
As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant, location 60 mois, à partir de seulement 89 $ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
À CFNJ, l'information régionale, c'est humain.
Une équipe de journalistes chevronnés parcourt Lanaudière pour vous livrer plus de 50 bulletins de nouvelles par semaine. L'information régionale, c'est également Lanaudière AM, Lanaudière PM, ainsi que Lanaudière et compagnie, des magazines d'affaires publiques qui mettent en vedette les acteurs de l'actualité. CFNJ, c'est la plus grande salle des nouvelles au service de Lanaudière.
À CFNJ, l'information régionale, c'est humain.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Jersey, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Cuthbert, Crabtree.
CFNJ, 99.1, 88.9.
La Naudière PM, politique provinciale.
Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, était à Joliette aujourd'hui là, pour annoncer l'implantation au Palais de Justice d'un tribunal spécialisé là, en matière de violences sexuelles et conjugales. Et le ministre était de passage à CFNJ et il en a discuté donc avec François Morin.
Aujourd'hui, en collaboration avec mon collègue député de Joliette, M. François Saint-Louis, on a annoncé la mise en place d'un tribunal spécialisé. Alors, c'est le 26e au Québec. Très heureux de l'annoncer ce matin à Joliette parce que pour la communauté de Joliette, ça va donner davantage de ressources en accompagnement et en soutien aux personnes victimes.
Justement, c'est un des objectifs poursuivis depuis le début, là, c'est qu'on veut rendre les tribunaux moins, en fait, le processus judiciaire moins pénible pour les victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles.
Oui. Ben, ce que notre gouvernement essaie de faire, c'est rebâtir la confiance des personnes victimes dans le système de justice. Ça veut dire avoir des lieux mieux adaptés, des palais de justice plus accueillants pour les personnes victimes, une salle des victimes adaptée avec des salles de bain à côté de la salle des victimes parce que lorsqu'on est agressé sexuellement, on veut pas nécessairement aller aux mêmes salles de bain que la personne qui est accusée de nous avoir agressé. Même chose également avec les procureurs de la Couronne, avoir toujours le même procureur de la Couronne qui s'occupe de notre dossier du début à la fin du processus. Le CAVAC aussi, les intervenantes, donc des intervenantes socio-judiciaires de liaison, on ajoute des postes, 5 postes supplémentaires pour mieux accompagner du début à la fin les personnes victimes.
Ça implique donc d'abord, oui, des ressources humaines.
Des ressources humaines, donc pour le district de Joliette, ici au Palais de justice de Joliette, on parle d'un poste de procureur aux poursuites criminelles et pénales, d'un technicien juridique au directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc ça, c'est pour le volet poursuite. Pour le volet soutien aux personnes victimes, on parle de 5 intervenantes socio-judiciaires de liaison au CAVAC, au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, qui vont pouvoir avoir leur contact direct avec la victime avant même le dépôt de l'accusation pour l'accompagner tout à travers le processus judiciaire et même au-delà du résultat, condamné ou acquitté. Et également, au palais de justice, on va avoir une coordonnatrice judiciaire qui va être chargée de faire le pont entre les dossiers criminels, les dossiers civils, les dossiers familiaux pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les dossiers puis pour mettre autour de la personne victime une bulle de protection. Et ça, ça fait part aussi des investissements qu'on a déjà faits. Le programme d'aide financière d'urgence qui est en vigueur ici depuis 3 ans, où est-ce que si une victime est prise dans son milieu familial avec la violence sexuelle, la violence conjugale, ben l'État québécois paye l'hébergement, le transport, l'alimentation pour une période temporaire pour sortir la personne de son milieu toxique immédiatement. Donc, on offre du soutien aux personnes victimes tout au long de leur parcours puis face aux défis auxquels elles font face.
Est-ce qu'il y aura un ou une juge spécialement signé ou ça peut être n'importe quel juge de la Cour du Québec?
Mais dans le fond, ça va la division spécialisée qui fait partie du tribunal, ça va être les juges de Joliette en chambre criminelle et pénale. Donc, on crée à l'intérieur de la chambre criminelle et pénale une division où on va entendre uniquement des dossiers en matière de violence sexuelle et conjugale. On va les séparer des autres dossiers. Donc, il n'y aura pas de dossier de drogue, il n'y aura pas de dossier d'armes à feu. Ça va vraiment être spécifique avec des journées dédiées. Puis, dans le fond, c'est la coordination de la Cour du Québec. Puis, je remercie la magistrature, notamment, également de leur collaboration dans ce dossier-là. Et en fonction de l'indépendance judiciaire, c'est eux qui assignent les dossiers. Mais nous, pour le ministère de la Justice, on couvre tout ce qui entoure la personne victime. Puis, il faut le dire, à la Cour, on change pas les règles de droit pour les accusés. Mais par contre, on priorise les besoins des personnes victimes parce que trop longtemps, elles n'ont pas été considérées par le système de justice. Puis ce qu'on veut, c'est que les personnes victimes n'hésitent pas à dénoncer. Puis lorsqu'elles seront prêtes, l'État québécois, les palais de justice vont être là puis vont être prêtes à les accueillir.
Je sais que vous avez rencontré le président du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec parce qu'il y a un questionnement. On parle d'un processus d'embauche qui débute demain, sauf qu'il y a déjà un manque de personnel au niveau judiciaire.
Ben, dans les palais de justice, il nous manque pas personne. Alors, c'est des investissements supplémentaires qu'on ajoute. Tous les employés au palais de justice, puis d'ailleurs, je tiens à les remercier, ils sont dévoués, ils travaillent en fonction des besoins des justiciables. Puis si le système de justice peut fonctionner, c'est grâce notamment à tous ces acteurs-là, greffiers, huissiers, surintendants des faillites, les juges, les avocats, les procureurs, les constables spéciaux qui se lèvent puis font fonctionner à tous les jours le système de justice. Donc, on ajoute des ressources, donc 7 ressources de plus à Joliette. Il y a des défis comme partout en termes de recrutement. Il y a des défis aussi à la grandeur de l'État québécois. Mais notre travail, à M. Saint-Louis, le député de Joliette et à moi, c'est de s'assurer que les services soient donnés à la population. Puis vous savez, la population, elle paye des taxes, elle paye cher d'impôts, mais il faut s'assurer que l'argent soit bien investi. Puis l'annonce de ce matin, aujourd'hui, pour le tribunal spécialisé, c'est une démonstration qu'en travaillant ensemble, on peut offrir des services de qualité à la population en fonction des besoins de la population.
Puis évidemment, j'imagine aisément là, que compte tenu de certaines difficultés, parce qu'on veut pas que les victimes rencontrent les accusés là, dans les corridors, il y aura effectivement des aménagements là, physiques.
Oui, il y aura des aménagements physiques parce que partout où on se promène au Québec, là, puis je pense que vous les connaissez aussi, les palais de justice, quand ça a été construit, ça a souvent pas été réfléchi. En fait, ça a juste pas été réfléchi pour les personnes victimes. Donc, on veut s'assurer que les victimes croisent le moins possible les accusés pour faire en sorte qu'ils se sentent au palais de justice en sécurité. Et on va avoir des aménagements particuliers. Tout à l'heure, je parlais des toilettes aussi, mais parfois des entrées séparées. Puis il faut reconfigurer. Puis on va faire des rénovations, notamment au palais de justice de Joliette. Là, présentement, temporairement, parce que le tribunal débute, mais pour justement faire en sorte aussi qu'à terme, bien, les victimes n'aient pas à croiser leur agresseur.
De façon générale, j'imagine, si on continue à faire des annonces, c'est parce que, comme on dit en bon québécois, ça marche.
Bien, le gouvernement s'est engagé. En 2021, on a adopté une loi à l'unanimité à l'Assemblée nationale avec toutes les formations politiques pour mettre en place ce tribunal spécialisé-là. Là, on a 36 districts judiciaires au Québec. On est rendu au 26e avec Joliette. Donc, on continue de déployer. Puis d'ici le 30 novembre 2026, partout au Québec, on va avoir le tribunal spécialisé. Et ça signifie que les personnes victimes, peu importe où elles sont au Québec, elles ont du soutien. Elles vont être accompagnées. Puis surtout à la fin du processus. Il faut que lorsqu'on soit passé à travers le système de justice, ça se soit bien passé puis qu'on soit satisfait, peu importe le résultat, parce que c'est possible et probable que certains accusés soient acquittés. Cependant, moi, ce que je souhaite, c'est que la victime, à la fin du processus, elle soit satisfaite de comment ça s'est passé.
En terminant, il y a un avant, il y a un pendant, mais il y aura aussi un après.
Mais il y aura un après parce que lorsque le résultat, il est prononcé suite au processus judiciaire. Ça s'arrête pas là. Parce qu'on a déployé, en collaboration avec mes collègues, avec M. Saint-Louis, le député de Joliette, le programme de l'IVAC, qui est l'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui fait en sorte qu'on a doublé le nombre de personnes indemnisées, justement pour que lorsqu'on est victime d'infractions criminelles, on l'a pas choisi. Et on veut faire en sorte que la personne puisse retrouver le cours normal de sa vie. Donc, cette année, c'est plus de 600 millions de dollars qui vont être investis pour que les personnes victimes puissent avoir du soutien psychologique, du soutien financier, avoir du soutien en matière de réorientation de carrière, des indemnités aussi permanentes parce que parfois, ils subissent des dommages physiques. Alors, ça continue. Les bracelets électroniques, ça continue. Le programme d'aide financière d'urgence, ça continue aussi. Puis, on est vraiment en train d'amener un changement de culture dans le système de justice pour dire les victimes ont des droits, les victimes sont importantes et il faut les considérer.
Là, c'est vrai, c'est ma dernière question, parce que vous venez d'ouvrir une porte concernant l'IVAC. Il n'y a pas une liste d'attente assez impressionnante de gens qui attendent encore leur indemnisation?
Mais vous savez, lorsqu'on a fait la réforme en 2021, on était à environ 180 millions de dollars d'indemnisation. Cette année, on est passé à plus de 600 millions. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes victimes a plus doublé. Parce qu'avant, la réforme qu'on a fait, il y avait seulement certains types de crimes qui étaient couverts. Donc, il y a certaines infractions criminelles qui n'étaient pas couvertes. Exemple, l'exploitation sexuelle. On vous disait à l'IVAC avant, désolé, vous n'êtes pas une victime. Ou parfois, c'était par le simple écoulement du temps. Vous aviez été agressé sexuellement, puis vous deviez avoir fait la demande en une année ou par la suite, à partir de 2013, en deux ans, on a enlevé le délai de prescription. Parce que lorsqu'on réalise qu'on a été une victime d'agression sexuelle ou même de violence conjugale ou de violence subie pendant l'enfance, faut que l'État soit là pour soutenir la personne. Alors, oui, on a une plus grande volumétrie de personnes, mais les gens à l'IVAC travaillent très fort pour faire en sorte de répondre aux besoins de la population. Mais on peut être fier collectivement de dire qu'on consacre une somme importante aux victimes d'infractions criminelles, parce qu'on le choisit pas. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens aient les outils pour retrouver leur vie.
Ben, c'était le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui était à CFNJ aujourd'hui là, pour annoncer l'implantation au Palais de justice de Joliette là, d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale. François Morin qui a eu l'occasion de le rencontrer. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça devient plutôt dense, je vous dirais, à l'approche de Marien. Oui, ça le demeure jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. Sinon, pour traverser vers la rive nord, Charles de Gaulle, ça va très, très bien. Repentigny, on circule très bien. 40 Est, la 341 montée de l'Épiphanie, là, très, très lourd depuis la 40, et ce, jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Non, pas des Mille-Îles, mais la rivière l'Assomption, oui. Pont-le-Gardeur, ouais, par Notre-Dame, ça va bien. Également par la rue Sherbrooke, 25 Nord. C'est dense depuis Henri Bourassa et ça jusqu'au boulevard Lévesque à Laval, jonction de la 440. Ouais, pas si mal, malgré qu'on soit quand même nombreux. Traversée facile vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. Le pont Sophie-Masson, petit peu lourd à l'approche, mais la traversée quand même assez bien. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Plutôt dense, secteur de la montée des Pionniers pour la 40. Dans un instant, l'actualité avec Pierre Jubinville.
Bingo! Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 16 novembre. Gagne 200 $ avec la ligne des Hauts, Dave Préfontaine de Saint-Aimé, une carte achetée au marché S.G. Bardier de Massieuville et Luce Mondeville de Saint-Cuthbert grâce à une carte achetée au dépanneur Formule 1 de Berthierville. Elle remporte 4 000 $ grâce à sa carte achetée au marché La Picoleuse de Contrecoeur, Dominique Parenteau. Et la carte pleine de la deuxième chance a fait une heureuse, Monique Gagnon de Saint-Félix-de-Valois, qui remporte 600 $ grâce à une carte achetée au métro Boucher. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000 $ en prix avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète de nos dépositaires est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Vous avez un commerce et vous vous demandez ce qui se passerait si vos équipements brisaient? Promutuel Assurance est là pour ça. Faites comme plus de 60 000 entreprises au Québec. Profitez d'un allié de confiance là pour ça. Promutuel Assurance est là, 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 là.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, née de la fusion des coopératives funéraires de Saint-Jean-de-Mata et de Montcalm, innove en offrant le service de diffusion virtuelle de cérémonies. Regardez et participez aux funérailles à distance, en direct ou en différé. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, c'est une approche flexible et bienveillante dans nos 5 points de service à travers 2 MRC. 450-886-3763 et 450-839-3450.
Il est 16h30, Pierre Jubinville, toute une journée politique à Québec, là, le Parti libéral là, qui vit sa première crise depuis l'élection du chef Pablo Rodriguez.
Oui, M. Rodriguez qui gère sa première crise, il a suspendu la députée Marois Risky, qui est très populaire au sein du parti. Il s'explique mal qu'elle ait congédié la chef de cabinet sans lui en parler, mais que reproche-t-on au juste à la chef de cabinet? Le mystère est complet.
Babu Rodriguez semble avoir été blessé par le congédiement de son amie Geneviève Hinz, sans que Marois Risky lui ait expliqué en détail la faute grave qui l'a mené à sa décision. Pour le chef, c'est un bris de confiance.
Ça a été un effet de surprise totale pour moi, pour les membres du caucus également. Donc, c'est à mon avis quelque chose de très sérieux.
Il ne propose pas non plus de solution pour réintégrer sa députée vedette pour l'instant.
Il est suspendu, donc qu'on va avoir une discussion entre elle et moi. Je dois réfléchir également.
Pour la suite des choses, le PLQ devra manœuvrer avec son nouveau chef parlementaire André Fortin et son nouveau whip Marc Tanguay à l'Assemblée nationale. Pablo Rodriguez affirme que le parti n'a jamais reposé sur les seules épaules de la députée de Saint-Laurent.
PLQ, c'est ses militants, c'est ses bénévoles, c'est son caucus. Il y a plusieurs autres personnes qui font un bon travail.
Il affirme aussi que la caisse électorale se remplit et qu'on se bouscule presque aux portes pour être candidat à la prochaine élection. Annie Guilmette, Cogeco Nouvelle, Montréal.
On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure avec Jacques Plante. Peut-être trouver des pistes à certaines questions qu'on peut se poser par rapport au Parti libéral. Il y a des rumeurs aussi, des coups de coulisses là, du Parlement à Québec.
Oui, mais il faut être prudent.
Le Palais de justice de Joliette qui va aménager, Pierre, un nouveau tribunal spécialisé dans les violences conjugales.
Violences sexuelles et conjugales. François Morin est allé rencontrer le ministre de la Justice aujourd'hui.
Le tribunal spécialisé de Joliette est le 26e à être implanté au Québec. L'objectif demeure de rendre le processus judiciaire moins pénible pour les victimes et pour les inciter à ne pas avoir peur de dénoncer. Il faudra des ressources. Là-dessus, le ministre Simon-Jolin Barrette.
Ça veut dire 5 ressources supplémentaires au CAVAC. Ça veut dire un procureur au DPCP. Ça veut dire un technicien au DPCP également. Ça signifie aussi un coordonnateur judiciaire qui va pouvoir faire le lien entre les différents dossiers pour faire en sorte que parfois vous avez des dossiers à la fois en matière criminelle, mais également en chambre de la jeunesse.
Les affichages de postes vont débuter demain, mais le syndicat des fonctionnaires provinciaux est pour le moins perplexe. Le président Nicolas Leduc la fantaisie.
Le personnel est déjà manquant, il est déjà à bout de souffle. Alors on est déjà un peu inquiet de comment ils vont réussir à implanter ça. Donc ça vient mettre un plâtre sur le bobo.
Des travaux devront par ailleurs être réalisés pour adapter le palais de justice aux besoins du nouveau tribunal. François Morin, CFNJ Nouvelles.
Début maintenant d'un procès d'un camionneur impliqué dans un accident mortel survenu en 2022. Triste histoire.
Oui, survenu à Saint-Roch-de-la-Chigan. Au volant de son poids lourd, il a violemment embouti la voiture que conduisait un homme avec comme passagère des filles, des jumelles de 9 ans. L'une d'elles est décédée, l'autre a subi de graves blessures. La vidéo d'une caméra de surveillance déposée en preuve laisse voir que le camion n'a jamais ralenti à l'approche de l'intervention. Section des chemins du ruisseau Saint-Jean et Louis-Philippe Lesage. Le procès doit durer toute la semaine.
La ville de Joliette qui fait encore appel au ministère des Transports pour régler un problème récurrent.
Oui, récurrent parce que la ville est en demande depuis plusieurs années. Elle s'adresse encore au ministère des Transports pour qu'il procède à des travaux de synchronisation des feux de circulation à l'intersection de Saint-Pierre-Sud et de la 158. Il s'agit d'un secteur dangereux et qui risque de le devenir davantage en raison des développements dans le secteur. C'est le conseiller Patrick Lassalle qui a présenté la résolution.
Considérant que l'augmentation prévue de la circulation causée par les nouveaux développements résidentiels aura un impact considérable sur les files d'attente et les délais à l'intersection de la rue Saint-Pierre-Sud et de la route 158, considérant que la circulation est déjà difficile près de la route 158 et que l'ajout des flux générés par la nouvelle école et les résidences aggraveront considérablement la situation. Je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable un ajustement de la programmation du feu de circulation, incluant l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle pour une gestion adaptative et en temps réel des flux.
Pierre, on va se poser souvent la question lorsqu'on ouvre le frigo et on voit une date sur un aliment, un produit qu'on a acheté. Est-ce qu'on peut le consommer encore? On jette souvent beaucoup de choses, là.
Oui, on jette en moyenne au Québec aux 300 $ de produits alimentaires à cause de cette confusion autour des dates de péremption. Il faut se méfier quand même selon les produits qu'on achète, genre poulet, poisson. Mm-hmm. Mais il y a bien des produits qu'on peut conserver. On peut même dépasser la date de quelques jours pour certains. Sylvain Charlebois est directeur du laboratoire des sciences analytiques à l'Université Dalhousie.
Avec les protéines animales, faut faire attention. Le laitier, la viande. Dans le cas des produits emballés, là, au Québec, au Canada, on a des transformateurs alimentaires qui font extrêmement attention. Il y a une culture de salubrité des aliments qui est très élevée au Canada. D'ailleurs, pour ce qui est de la salubrité, le Canada est un des meilleurs pays au monde, là, vraiment. Là. La date meilleure avant est un point de référence.
Ah, puis le Cheese Whiz, ça peut durer 100 ans.
Oui, on sait pas ce qu'ils mettent là-dedans.
Et finalement, le groupe Villemaire fait des heureux.
Oui, il remet des vêtements d'hiver à 125 enfants de la Naudière. Les enfants âgés de 5 à 14 ans ont reçu des manteaux, des salopettes, des tuques et des mitaines afin qu'ils puissent affronter la saison froide. Le groupe Villemaire a distribué plus de 870 ensembles de neige à travers ses marchés d'affaires au Québec.
Merci Pierre Jubinville. Il est 16h36.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM. Communautaire.
Le milieu communautaire et syndical de Lanaudière se mobilise en prévision là, d'une grande manifestation de solidarité qui est prévue le 29 novembre du côté de Montréal. Ces organisations qui veulent dénoncer le gouvernement Legault. Régent Turgeon a d'abord parlé avec Catherine Cartier-Pouliot du Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière et puis avec Nicolas Leduc Lafantaisie du Syndicat des fonctionnaires provinciaux.
C'est important pour vous de manifester aujourd'hui au bureau de M. Legault?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était un drop de bannière, là, en fait, partout au Québec. Il y en a eu quelques-uns dans l'anneau d'hier. Donc, on se rassemble ici pour la conférence de presse pour dénoncer, en fait, les mesures d'austérité, de privatisation, le désinvestissement là, dans le filet social. Puis aussi pour appeler là, à une prochaine mobilisation, hein, parce que la lutte, c'est pas une fois. C'est vraiment un chemin, une escalade. Donc, à la prochaine mobilisation qui est le 29 novembre prochain.
On sent dans les propos que, d'après vous, ça va mal dans la province. Éducation, santé, transport, il y a des lacunes.
Exact. En fait, ça va mal un peu partout, là. Mais nous, on est très, très loin là, d'être exclus de ça au Québec. Donc, effectivement, les services publics sont en ruine à force de ne pas y investir, à force d'y amener des mesures du privé, soit les privatiser ou soit imposer une gestion privée dedans. Puis, on le voit partout. Nous, dans le communautaire, en fait, on est directement là. On voit les conséquences directes sur les gens qui sont les plus vulnérables de nos sociétés. Puis, c'est clair que ça va pas bien. Le filet social qu'on s'est bâti au Québec à coup de lutte sociale, ben il est en train de vraiment disparaître. Puis c'est important qu'on se lève pour le défendre, pour le protéger, puis pour le rendre encore mieux, en fait, une société égalitaire pour tout le monde.
Mais c'est pas d'hier, me semble, qu'on entend ces récriminations-là contre le gouvernement Legault. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de positif qui a été fait au moins par le gouvernement dans quelques-uns de ces dossiers-là?
Ah, mon Dieu, si on vient chercher là au cas par cas, je suis sûre qu'on pourrait trouver quelques éléments qui tombent sous le sens. Là, quand même, gérer une province au complet, il faut que de temps en temps, tu fasses quelque chose qui a du bon sens. Mais si on parle plus de la vision globale qu'il y a, ben à ce moment-là, je dirais non, en fait.
Et Lanaudière, ça va pas bien dans Lanaudière, à vous entendre, là.
Oui, ben exactement. C'est la même chose qu'un peu partout. Dans Lanaudière, on a les problèmes d'inégalité qui augmentent puis d'approvisionnement qui sont là. On a aussi beaucoup d'enjeux de transport. Même si on n'est pas une région reculée, ben ça a des grosses conséquences, le fait qu'on n'ait pas de transport collectif. Il y a des enjeux par rapport aux emplois, par rapport à l'accès aux soins, l'accès aux écoles, etc. Donc, voilà, Lanaudière, comme les autres régions, ça va pas bien.
29 novembre, on s'attend à une très grosse mobilisation.
Oui, ben nous, en fait, on va former un contingent communautaire, là. Donc, les différentes régions, on a décidé là, de se joindre à l'intersyndical en contingent communautaire. Donc, c'est ça. Puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres contingents aussi, en plus, comme tel, là, des syndicats en intersyndical qui sont là. Mais pour avoir un nombre exact, je pense que c'est plus... une approximation plus exacte, c'est plus à eux autres qu'il faudrait le demander.
On a hâte de se faire entendre.
Oui. Exact. Puis encore une fois, le 29 novembre, ça va être une étape, sauf qu'il faut continuer à se mobiliser, à s'organiser, à se parler, puis à décider c'est quoi les actions qu'on va prendre pour vraiment arriver à changer les choses, parce qu'une lutte, ça se fait pas en une mobilisation. C'est un travail de longue haleine.
Oui, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, votre nom et votre titre.
Nicolas Leduc, La Fantaisie. Je suis président régional au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.
Vous représentez qui, là, M. Leduc, en fait?
Nous, on représente les fonctionnaires de premier niveau, des gens qui donnent des services directs à la population dans l'ensemble des ministères, à l'exception de la santé et de l'éducation. Fait qu'entre autres, ministère Transport, la Justice, Bureau de Services Québec, c'est nos gros principaux, mais on a aussi l'environnement et plusieurs autres.
On a cru, en tout cas, on comprend que vous vous êtes associé dans cette manifestation-là avec des gens du milieu communautaire. Vous avez des récriminations aussi contre le gouvernement.
Oui, nous, on a perdu là, près de 2000 personnes, membres, qui donnaient des services à la population. Fait que tous les délais là, au niveau du Service Québec, des demandes de recours d'urgence, tout ça, ça s'est allongé. Fait que pour nous, ça allait de soi de s'associer avec le communautaire parce qu'eux sont en mesure de mesurer les impacts directs à la population. Les délais rallongent dans tous les ministères. Alors, soyez pas surpris de voir de plus en plus de gens dans vos rues là, parce que le gouvernement s'en occupe de moins en moins. Si on prend exemple l'environnement, il y aura pratiquement plus d'inspection qui va se faire dans la région, fait que ça risque d'être un bar open pour des petites saloperies environnementales qu'on va devoir éponger et bien sûr payer collectivement.
Et là, ce matin, vous avez livré un message qui était particulièrement clair à l'intention du gouvernement Legault et à M. Legault lui-même.
Oui, pour nous, là, il est grandement temps là, de se lever et de crier haut et fort là, que c'est assez. Depuis trop longtemps, le gouvernement de la CAQ accumule les mauvaises décisions, les projets de loi là, sans consultation, des réformes improvisées qui divisent, les choix économiques qui ont fait reculer le Québec. Il faut comprendre que le déficit actuel là, il a été créé par la CAQ elle-même et ils l'utilisent actuellement pour imposer leur propre idéologie. Ils ont bien beau prétendre là, défendre la classe moyenne, mais en réalité, ce qu'ils visent, là, c'est les travailleuses et les travailleurs du Québec et ils déclarent aussi la guerre à leur organisation syndicale. Là, pendant qu'ils vont se vanter de leur efficacité, ben, pendant ce temps-là, ils détricotent les services publics et ils vont privatiser l'avenir de tout le monde. Que ce soit en santé, là, en éducation, les services sociaux, dans le transport, dans la communauté ou dans la fonction publique, là, tout le monde va payer le prix de leur incompétence et de leur arrogance. Puis ça, c'est dans le seul but là, d'éviter l'agonie politique de leur parti et surtout de leur chef François Legault.
Raison de plus d'être là le 29 novembre pour vous avec... Vos membres.
Exactement. Puis on invite les gens, les citoyennes et les citoyennes du Québec à venir nous rejoindre à la Place du Canada samedi le 29 à 1h30 pour venir manifester avec nous. Si vous avez ras-le-bol de ce gouvernement-là, c'est un bon moment de l'afficher.
Bon, c'était Nicolas Leduc, La Fantaisie du syndicat des fonctionnaires provinciaux. On a entendu aussi dans les dernières minutes Catherine Cartier-Pouliot du Mouvement d'éducation populaire autonome de la Naudière. C'est Régent Turgeon qui les a rencontrés un peu plus tôt en vous rappelant cette manifestation qui se déroulera à Montréal le 29 novembre. On parle de la crise au sein du Parti libéral provincial dans un instant avec Jacques Plante.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Ménage Providence, votre partenaire de confiance pour une propreté sans bon sens. Vous rénovez? On nettoie. Après construction ou rénovation, confiez-nous le ménage et profitez de votre espace sans souci. Suivez-nous sur Facebook et appelez Ménage Providence au 450-750-9912. Oui, 450-750-9912.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent.
Promutuelle Assurance et la 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 la.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
16h45, salut Jacques.
Salut Claude, je viens d'entendre la publicité. Un pu là 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 là.
Oui, on parle de Marois Risky. Crise ouais. Au Parti libéral du Québec, c'est la première crise pour Pablo Rodriguez là, qui a décidé de suspendre Marois Risky du caucus pour bris de confiance.
Ouais, ça c'est lourd de conséquences quand on parle de bris de confiance comme tel. On n'a pas vu ça souvent, des crises au Parti libéral. La règle générale, ça se règle en vase clos, en famille.
Ouais, ouais, ouais.
Ça prend du temps à déborder. Même, des fois, on se disait, les journalistes de la colline parlementaire ont-ils tourné la tête pour ne pas en parler? Mais là, c'est sorti, puis de façon flagrante.
Marois Risky, ben, c'est la numéro 2 du Parti libéral, puisqu'elle était leader parlementaire à Québec. Le fond de l'histoire, c'est que Marois Risky a congédié Geneviève Hinz, qui était la directrice de cabinet. Elle l'a remercié de ses services. Pablo Rodriguez n'a pas été avisé. Il
le
est
caucus,
en beau.
Le caucus non plus.
Il est en beau maudit. Décide donc de dire ça suffit. Marois, il la rencontre à peine 10 minutes aujourd'hui. C'est terminé. Marois suspendu du caucus.
Ça, c'est le côté sombre de la politique, parce que Marois Risky, il faut le mentionner. Là, c'est une des vedettes du Parti libéral du Québec.
Oui, tout à fait.
C'est une dame, là, pour ceux, des fois, qui voient des clips pendant les nouvelles. Moi, je suis plus malade que ça. J'écoute souvent les débats à l'Assemblée nationale. Mmh. Elle a du verbe.
Oui.
Elle maîtrise bien ses dossiers.
C'est une femme qui a beaucoup d'aplomb.
OK. Oui. Et là, on savait très bien, parce qu'on le sait, elle a été courtisée pour se présenter à la chefferie du Parti libéral.
Mmh. Hein?
Elle a dit qu'elle réfléchissait. Elle a eu un deuxième enfant. Là, pas beaucoup de temps à consacrer. Alors,
vie de famille, il faut rappeler aussi qu'elle est la conjointe de Gregory Kelly,
qui est aussi
un député du Parti libéral.
Un député du Parti libéral.
Marois Risky avait annoncé qu'elle se représenterait pas.
Ben, c'est que au moment où elle décide de ne pas briguer la chefferie, elle a aussi annoncé qu'elle allait compléter son mandat, mais que pour l'élection de 2026, elle ne sera plus là. Ça, c'est ce qu'elle avait dit. Là, on connaît le reste de la séquence. Rodriguez arrive, il est élu, il la nomme chef parlementaire, donc il tasse Marc Tanguay.
Oui, chef parlementaire, parce qu'il faut rappeler que Pablo Rodriguez ne siège pas.
Oui, et ça, il est un petit peu coupable, à mon sens, parce que ce que je n'ai jamais compris quand les journalistes lui ont dit « Est-ce que vous allez avoir un siège et tout ça? » Il a dit « Non, j'ai besoin de tout mon temps pour faire le tour du Québec, aller chercher des candidats, des candidates, monter la plateforme et tout ça. » Sachant très bien que, règle générale, quand un chef est élu dans un parti, il y a toujours un député qui va céder son siège dans une circonscription sûre.
Ou encore, s'il y a une partielle, ben il va se présenter dans la partielle.
Exactement. Ouais. Là, ça s'est pas fait comme ça. Et même s'il s'attendait pas à ce que le premier ministre François Legault, parce que Legault a 6 mois pour déclencher une élection complémentaire, est-ce qu'il aurait fait comme Carney, qui a fait avec Poilievre, dire « je vais t'accommoder puis on va y aller plus vite ». S'il y avait eu le 6 mois, il y aurait eu le temps de faire sa tournée et tout ça. Mais là, on n'en est pas là. Et il faut pas oublier que Mme Hinz, qui a été limogée, elle était à Ottawa avec Pablo Rodriguez. Quand il a décidé...
Oui, c'est une amie.
Exactement.
De Pablo Rodriguez. Et là, ben, il y a eu point de presse de Pablo Rodriguez cet après-midi.
Il n'a pas dit grand-chose.
Marois Risky, qui a rencontré la presse, qui, elle, non plus, a pas dit grand-chose.
Accompagné de son avocat, qui a dû lui dire, ne parle pas.
Et là, ça ouvre la porte à une foule de rumeurs.
Oui.
Et bon, les rumeurs qui viennent des coulisses à Québec, ce serait que Geneviève Hinz aurait pigé dans la caisse de l'Assemblée nationale pour financer la course à la chefferie de Pablo Rodriguez, qui est quand même très lourd et très grave. Et il y aurait eu plainte au commissaire à l'éthique contre le Parti libéral.
On dit aussi qu'il y a quelque chose qui est fait en direction du DGEQ. Directeur général des élections du Québec.
Oui.
Mais encore là, les deux n'ont pas parlé. C'est ce qu'on appelle l'omerta.
Mais c'est ça, c'est que si on parle pas, on laisse partir toutes sortes de rumeurs. Et ça aide pas plus le parti, là.
Ça aide pas plus le parti. Moi, je pense, en tout cas de mon côté, parce que Mme Hinz, elle connaît l'appareil, elle sait comment ça fonctionne, de là à dire qu'elle aurait commis une faute aussi grave. Pas certain. Moi, je pense que c'est plus une guéguerre de madame, là, jusqu'à un certain point. Parce que, tu sais, dans le fond...
Mais Marois Risky a du poids au Parti libéral.
Oui.
Beaucoup, beaucoup. Oui. Et moi, j'ai l'impression que ça va entraîner aussi son conjoint. Son conjoint ne se représentera pas. Là. Ça m'étonnerait.
Il va être mal dans ses culottes, ça, c'est sûr.
Oui.
Il va se sentir...
J'ai l'impression qu'il va démissionner, là, Gregory Kelly. Là.
Ben, je sais pas comment ça va se passer, mais il va y avoir sûrement des tractations, beaucoup d'appels téléphoniques en coulisses qui vont se faire.
Jacques, selon toi, est-ce qu'on peut exiger parmi les députés, la majorité des députés du Parti libéral, peuvent-ils exiger la tête de Pablo Rodriguez?
Non, on n'ira pas jusque-là.
Non.
Ils se sont trouvés un chef qui avait du bon sens. Et puis là, il le mentionnait, puis on le sait, là, l'argent rentre, il paraît qu'il y a des gens qui sont intéressés à se présenter. La conjoncture est bonne, parce que là, on s'aligne sur un débat entre le PQ puis le PLQ.
Oui.
Avec le côté fédéraliste ou indépendant. Alors, la guerre s'annonce... la campagne électorale s'annonce quand même intéressante pour le Parti libéral du Québec.
Mais chose certaine, le Parti libéral n'avait pas besoin de ça aujourd'hui.
Là. Non, pas du tout, pas du tout. Il y en a... J'ai l'impression qu'à la période des questions, dans les jours qui viennent, il y a peut-être des gens, un certain Plamondon puis un certain Legault qui vont se payer à la traite.
Oui, mais une autre chose qui est bien certaine, c'est que il va falloir que quelqu'un donne des réponses ou donne des explications à un moment donné. Là.
Ben c'est sûr que les journalistes vont être à l'affût de tout ce qui se passe.
Et
on est mieux de dire un peu ce qui se passe que de finalement, comme tu disais tantôt, de laisser courir plein de choses.
Merci Jacques Plante.
Salut.
Lanaudière PM, communautaire.
Une véritable institution de Terrebonne doit déménager, et ce, bien malgré elle. On parle du carrefour familial des Moulins de la rue Léveillé, qui est contraint de partir après l'expiration de son bail en juin dernier. Un départ qui se fait dans un contexte quand même assez difficile, comme l'explique la directrice générale Suzy Lampron à notre collègue Régent Turgeon.
Madame Lampron, d'entrée de jeu, peut-être nous parler de la mission du Carrefour familial des Moulins.
Oui, la mission du Carrefour familial, c'est de venir en aide aux familles de la MRC Les Moulins. Dans le fond, on accueille toutes les familles. C'est une clientèle universelle. Alors, les familles sont bienvenues chez nous. On offre des services, soit de... des rencontres prénatales. Ça va des rencontres prénatales jusqu'à temps que l'enfant ait 5 ans. Après ça, on a des activités pour les enfants un peu plus vieux aussi.
Parce qu'il y a une garderie, j'ai vu une joujouthèque là en arrivant.
Oui, on a une joujouthèque, une belle joujouthèque, et c'est le même principe qu'une bibliothèque. Alors, et puis une halte garderie aussi. On a des ateliers par enfant. On offre aussi du yoga, comme je disais, pour la femme enceinte. On est beaucoup développé aux côtés du centre de ressources périnatales, là, qui est du moins 9 mois à 2 ans.
On peut aider combien de familles ou de personnes bon an, mal an, là, sur une base hebdomadaire ou mensuelle? Il en passe des gens ici, là.
Oui, il en passe. Je peux vous donner plus au niveau annuel, mais c'est aux alentours de 2000. Tout dépend des années, entre 1700 puis c'est arrivé jusqu'à 2000. L'année passée, je pense que c'était 1700 quelques personnes qui ont passé dans nos activités. C'est-à-dire que souvent, c'est des familles, là, parce que c'est, mettons, le père ou la mère qui vient prendre une activité. Fait qu'il y a les enfants aussi qui sont la fratrie qui est là.
Il y a des nouveaux arrivants? Terrebonne est une ville d'accueil, là.
Oui, on a des nouveaux arrivants. C'est sûr qu'on a un autre organisme qui vient en aide aux nouveaux arrivants, qui est Aminat, qui fait un très beau travail. Alors, par contre, c'est notre réalité, surtout dans notre service de relevail, où est-ce que ces familles-là se retrouvent souvent toutes seules. Alors, ils n'ont pas d'entourage, ils ont besoin d'aide quand le petit bébé vient au monde. Fait que on est souvent là, présent pour ces familles-là.
Vous avez récemment lancé une campagne de sociofinancement pour réaliser un déménagement et aménager dans des locaux qu'on dit mieux adaptés aux besoins des familles. Ça s'est bien déroulé?
La campagne de financement s'est bien déroulée. On a atteint notre premier objectif qui était 3 000. On a fait un deuxième objectif à 8 000. Finalement, on est arrivé à 5 000 quelques dollars. Mais on est content, là. C'était une première pour nous, de cette façon de faire-là. Et puis, on va se reprendre, mais différemment pour les prochaines années.
Pourquoi des nouveaux locaux, justement? On veut offrir plus de services?
C'est pas un choix. Dans le fond, notre bail se termine en juin de cette année. Alors, et non renouvelable. Alors, le propriétaire voulait pas renouveler le bail. Alors, on a dû faire en sorte de se trouver quelque chose d'autre. On voulait rester dans le même secteur.
Oui,
et puis, cette bâtisse-là, qui est un duplex, est sur notre même rue. Fait qu'on a trouvé que c'était une bonne idée. C'est sûr qu'on s'est retrouvé par contre avec beaucoup de problématiques, entre autres un problème d'amiante.
Est-ce qu'il y avait un sentiment d'urgence, justement, pour faire ce déménagement-là?
Oui, oui, on n'avait pas le choix parce qu'on s'entend qu'un organisme comme chez nous, on avait besoin quand même de l'espace. Et puis, les locaux, c'est très dispendieux à Terrebonne, là, on s'entend. Oui. D'autant plus qu'on voulait rester dans le même secteur parce que, bon, on est plus centre ici. C'était vraiment difficile. Fait qu'on s'est... C'est pas long un an quand tu dis faut déménager là, un organisme. Fait que c'est ça.
Et le déménagement doit se faire quand? On peut penser que c'est dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Oui, entre autres, en principe, si tout va bien, les travaux devraient se terminer avant les vacances, c'est-à-dire aux alentours du 18 décembre. Nous, on prévoit faire comme deux phases de déménagement, probablement une en décembre, là, aux alentours de cette, quand les travaux, aux alentours du 17-18. Et puis, le deuxième déménagement, le 16 janvier. Et par la suite, on devrait réouvrir les locaux aux alentours du 23, si je me trompe pas, là.
Madame Lampron, on entend souvent dire qu'il y a un sous-financement des organismes communautaires. Est-ce que cette question du financement est une source de préoccupation pour vous?
Oh my God, oui, certain que c'est une source de préoccupation. Déjà, déménager pour nous, c'est des frais beaucoup supplémentaires, d'autant plus qu'on a eu des surprises. Comme je vous dis, c'est 53 000 que ça coûte ça l'a coûté de plus pour la décontamination de la bâtisse. Après ça, on a dû mettre une poutre de soutien. Fait que déjà, tout de suite en partant, puis avoir du financement pour une nouvelle bâtisse, ça n'existe pas c'est pas comme un CPE qui peut avoir des sous pour bâtir. Nous, on n'a pas ça comme organisme communautaire, famille, ça n'existe pas. Alors, déjà, tout de suite en partant, ce morceau-là, c'est vraiment important. Puis déjà, on est sous-financé, on s'entend. Les organismes, on le sait qu'on essaie de faire plus avec moins à tous les années. Fait que c'est un peu ça. Puis ce qui fait qu'on souvent par nos ressources, les personnes qui sont là restent pas parce que les salaires, on a de la difficulté à arriver. Les compétences, toute l'expertise humaine qui roule. Et comme là, nous, on a dû déménager, ça va être plus petit qu'ici, c'est certain. Mieux aménager, par contre, avec qui va plus créer un milieu de vie. Mais c'est sûr que les organismes, quand on doit couper, bien souvent, c'est dans les salaires qu'on coupe ou dans le personnel. Et là, on se retrouve avec une surcharge de travail. Fait que c'est une réalité. On n'est pas les seuls. C'est tous les organismes communautaires là, qui se retrouvent dans cette situation-là.
Voilà, c'est Régent Turgeon qui s'entretenait avec Suzy Lampron, directrice générale du Carrefour familial des Moulins. Et rappelons cette nouvelle du jour, Pablo Rodriguez qui suspend Marois Risky du caucus libéral pour avoir congédié sans avertissement une de ses proches, la directrice de cabinet Geneviève Hinze. André Fortin, député de Pontiac en Outaouais, qui remplace Marois Risky comme chef parlementaire. Ici Claude Fournel, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. Je salue et remercie nos collaborateurs Mathieu Bélanger, François Borin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon, ainsi que Jacques Plante. Soyez à l'écoute dans un moment de l'autre côté de l'actualité de 17h. C'est le 5 à 7 trad avec Nicolas Bellemare et nous, on sera là demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM. Ciao!